Une affaire criminelle, Gilles de Rais, 1437. Jamais sans doute il n'exista pire meurtrier que Gilles de Rais. Ses crimes dépassent l'imagination et remplissent d'horreur. Des petits pâtres, des enfants insouciants que leurs parents paysans cherchent des jours et des nuits et ne reverront jamais. Des centaines de disparitions signalées dans les forêts de Machecoul, de Tiffauges, jusqu'au jour où... Gilles de Rais, un nom à faire frémir. Et pourtant, ce compagnon de Jeanne d'Arc, présent à Orléans et au Sacre de Reims, fait maréchal de France par Charles VII, s'est distingué par une carrière militaire exemplaire. Lorsque Jeanne est brûlée vive, Gilles retourne dans ses terres vendéennes, au château de Tiffauges. Gilles de Rais est né à Chantossé, en Anjou, à l'automne 1404. C'est l'arrière-petit-neveu de Bertrand du Guesclin. Il appartient à l'une des familles les plus puissantes du royaume. Son père, Guy de Laval, étant mort le 28 septembre 1415, son grand-père Jean de Craon, un homme taciturne et cruel, va se charger de son éducation. C'est à la mort de ce grand-père détesté, en 1432, que les crimes de Gilles de Rais vont commencer. À la tête d'une petite troupe de rabatteurs et d'assassins, il va tuer des enfants et des adolescents dans ses quatre résidences, Tiffauges, la maison de Suze à Nantes, Chantossé et Machecoul. Dans les campagnes, les paysans ne cessent de signaler la disparition de leurs enfants. Jeannot Roussin, 9 ans, Jean de Grépy, 12 ans, Jean Hubert, 14 ans, Jean Fougère, 12 ans, Perrault Daguet, 10 ans. La liste, si elle était complète, comporterait plus de 800 noms. Chaque fois, la présence d'un personnage vêtu d'une longue cape noire et le visage couvert d'un voile est évoquée. Il s'agit de Gilles de Sillé, compagnon de Gilles de Rais, et qui se charge de la plupart des enlèvements. Les enfants sont emmenés alors qu'ils gardent leurs bêtes, ramassent du bois en forêt ou demandent l'aumône. Ils sont alors livrés au monstre dans une salle d'une de ses quatre résidences. C'est lui-même qui les suspend à des crochets de fer, leur inflige d'inimaginables tortures avant de prendre plaisir à les voir mourir, d'en rire et d'en démembrer ensuite les corps, exposant les entrailles, conservant les plus belles têtes qu'il se plaît à contempler. Il est aidé dans ses abominables besognes par un certain Poitou, engagé en 1437 et qui égorge souvent les victimes, par Henriette Grillard, un Parisien, Eustache Blanchet, le sorcier Prélati. Dans le même temps, Gilles de Rais dépense sa fortune, s'adonne à la magie noire, à l'alchimie. Le 15 mai 1440, à peu près ruiné, il entre de force dans l'église de Saint-Étienne de Mère-Morte, brandissant une hache, il injurie l'officiant à qui il a vendu sa châteline, puis il se retranche à Tiffauges. Cette fois, c'en est trop. Gilles de Rais est arrêté le 14 septembre 1440. Son procès a lieu à Nantes. Les débats sont conduits par l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit. Dans les premiers jours, l'accusé se montre arrogant, insulte ses juges. Mais à partir du 15 octobre, il reconnaît la compétence du tribunal, devient coopérant, implore le pardon de Dieu et s'excuse auprès des parents des enfants torturés. Le 23 octobre, il est condamné à mort. Il a avoué tous ses crimes face à la foule, s'accusant, se condamnant lui-même avec une telle éloquence qu'il lui en tire des larmes. Il a obtenu d'être exécuté avant ses compagnons. Le 26 octobre 1440, à 9h du matin, après la messe, l'évêque de Nantes sort de la cathédrale, suivi des chanoines du chapitre, du duc de Bretagne et des représentants de la ville. Les condamnés marchent vers leur supplice, dans ce lent cortège, jusqu'aux prairies de Biesse, au-delà des ponts de Nantes. Dans un dernier discours, l'assassin implore son pardon. Il est pendu, puis livré aux flammes du bûcher. Ses restes sont déposés en l'église Notre-Dame du Carmel à Nantes. Un mausolée lui est construit. Mausolée qui sera réduit en poussière par les révolutionnaires en 1789.